Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la santé, j'échange avec Clément Gers, médecin de santé publique, cofondateur et CEO de la startup Synapse Medicine. C'est à la suite d'une édition du hackathon Hacking Health et après de nombreux échanges avec des médecins que Clément et ses cofondateurs ont eu l'envie de développer une solution dédiée au bon usage des médicaments. Après beaucoup d'itérations, c'est en 2017 que Synapse Medicine est née dans l'objectif de permettre à tous l'accès à une information fiable et utile sur les médicaments. En alliant tech et santé et grâce à des collaborations avec de grands CHU français, l'équipe basée à Bordeaux est parvenue à développer une plateforme de Medication Intelligence aidant les médecins à prescrire les médicaments, les pharmaciens à les délivrer et les patients à les prendre. Dans cet épisode, Clément nous explique pourquoi et comment se concentrer sur le développement d'un produit plutôt que d'un service en santé, comment trouver plusieurs business models au sein de son écosystème et comment se préparer à scaler à l'international. Avant de vous laisser avec l'écoute de l'épisode, je voudrais vous remercier pour les dernières reviews que vous m'avez laissées sur Apple Podcast et vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à aller me laisser 5 étoiles et un petit commentaire directement sur l'application Apple Podcast afin de m'encourager à continuer et me dire ce que vous pensez du podcast. Moi, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Gers, médecin de santé publique, cofondateur et CEO de la startup Synapse Medicine. Salut Clément, ça va ?
Salut, ça va très bien et toi ?
Bah, je vais super bien, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors aujourd'hui, on va passer 45 minutes à revenir sur toi, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en santé et comprendre de fil en aiguille comment tu as fait pour en arriver aujourd'hui à ce que vous faites chez Synapse. Et puis, on va discuter après de les prochaines étapes que tu veux mener avec ton entreprise. Ça te va ?
Impeccable.
Ok. Ben écoute, je te laisse te présenter en partant vraiment de la base, c'est-à-dire dans que tu puisses me décrire l'environnement dans lequel tu as grandi, pour qu'on comprenne vraiment quel type d'entrepreneur tu es et comment tu es arrivé à te lancer dans l'entrepreneuriat en santé.
Ça marche. Eh ben, comme tu l'as dit en préambule, moi je suis médecin. De manière très peu très classique en fait. J'ai un père médecin et une sœur médecin, donc. Ouais. Un peu baigné dans la médecine étant jeune, donc pour le coup j'ai fait un parcours assez classique de ce côté-là, dans le sens où j'ai été motivé sur l'aspect science beaucoup et médical de toute façon depuis assez jeune, donc là-dessus je me suis pas trop posé de questions. Je suis allé faire une première année de médecine et faire des études de médecine qui m'ont par ailleurs bien plu. Donc j'étais en région parisienne et puis par contre effectivement au fur et à mesure où les études de médecine avançaient, moi l'un des trucs qui m'a alors j'adorais mes études de médecine vraiment, mais j'avais un petit côté où j'étais frustré de plusieurs choses, de la répétabilité de certaines choses. Il y avait certaines, on va dire, spécialités ou autres où je trouvais que j'avais du mal à me visualiser faire ça pendant 40 ans, c'était un peu ce qui m'angoissait. Et puis je me souviens que j'étais assez frustré de finalement de pas collaborer plus avec des profils en dehors du monde de la santé. C'était un truc qui me manquait un peu. Je trouvais que c'était bien, il y avait un aspect collaboratif à l'hôpital qui me plaisait beaucoup, mais qui restait cantonné à un nombre de professions clairement définie et limitée. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à une spécialité qui est assez peu connue en France, qui s'appelle la santé publique, qui me faisait de l'œil parce que j'avais l'impression que pour le coup, on pouvait faire plein de choses, quoi. C'est assez difficile d'avoir de l'information là-dessus quand t'es jeune étudiant en médecine en France, parce que c'est une spécialité qui est peu valorisée, on t'en parle pas trop, tu sais pas trop ce que c'est. Mais vu de loin, moi, ça me donnait bien envie parce que ça avait l'air d'être hyper varié. Et donc, j'ai choisi de faire de la santé publique, vraiment par choix. Je m'étais dit, bon, au pire, si ça me plaît pas, en médecine, on peut faire ce qu'on appelle des droits au remords, c'est-à-dire tu changes de spécialité. Et dans ce cas-là, j'aurais fait de la gériatrie ou de la médecine d'urgence. Et le fait est que ça m'a vachement plu. Et j'ai atterri à Bordeaux.
Tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste un médecin de santé publique ?
Ouais. Et ben justement, c'est une discipline, je m'étais pas trompé, qui est très large. C'est-à-dire que c'est une discipline qui par définition, la santé publique, c'est la santé des populations. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de la médecine à l'échelle populationnelle, donc sur un grand nombre d'individus, plutôt que sur un individu en particulier. Mais ça regroupe des sous-disciplines, en fait, au sein de cette discipline. Tu vas avoir des gens qui vont se spécialiser en épidémiologie. On peut en parler maintenant parce que maintenant ça parle à tout le monde, l'épidémiologie, et les gens se sont rendus compte que c'était utile. Donc on a vu plein d'épidémiologistes toute l'année sur les plateaux télé. On peut faire de la recherche clinique, donc c'est les gens qui font justement, qui aident à mettre en place toute la recherche pour trouver de nouveaux médicaments, pour trouver des nouvelles choses, etc. Il y a tout ça, il y a une méthodologie à avoir, il y a plein de choses à faire. On peut être à l'hôpital dans ce qu'on appelle les services d'information médicale qui gèrent toute l'informatisation de l'hôpital, toutes les données hospitalières, toute la stratégie hospitalière. On peut travailler dans les administrations de santé, dans par exemple au ministère ou dans les agences régionales de santé. On peut faire de la santé internationale, on peut faire plein de choses,
okay,
du moment que c'est très transversal. Et donc justement, souvent, les médecins qui font ça se surspécialisent, notamment en faisant, puisque c'est à cette époque-là, on a encore 25-26 ans et on est encore en études, parce que c'est long les études de médecine. Et donc on fait souvent, la plupart des internes de santé publique font en plus un master 2, qui justement leur donne une couleur du coup vers ça. Soit tu fais un master d'épidémiologie, soit tu fais un truc en politique de la santé, qui du coup commence à du coup te spécialiser dans une des voies que j'ai citées juste avant. Et alors du coup là, premier tournant pour moi, parce que à la base moi j'étais bien motivé pour aller justement dans les administrations de santé. J'avais l'impression que j'avais envie d'avoir de l'impact, en fait. Ça, c'était déjà un truc qui était présent. Et je m'étais dit, là où tu as le plus gros levier potentiellement, c'est effectivement là où les gens prennent les décisions. Prendre des décisions et mettre en place des choses qui impactent derrière des millions de gens pendant plusieurs années. Donc ça a l'air cool. Et donc, je commençais à regarder pour faire un master en ce sens, etc. Et puis, un peu par curiosité, j'ai entendu dire qu'il y avait un événement qui s'organisait en France, à Strasbourg, qui s'appelle toujours, parce qu'il a toujours lieu, le Hacking Health Camp, et qui est un hackathon en santé. Je ne sais pas si j'explique ce que c'est un hackathon.
Non, je ne pense pas. Enfin, okay. Je pense que ça valait.
Moi, je n'avais jamais fait de hackathon.
Ouais.
Alors, je code peu ou très mal. Je n'ai absolument pas... le côté geek qu'on peut me prêter souvent dans des portraits ou des trucs comme ça, c'est des raccourcis. J'ai monté une boîte dans l'IA, donc forcément je suis geek. On va dire peut-être que j'avais effectivement une appétence pour la culture geek, j'étais pas dégoûté par un ordinateur, mais j'étais absolument pas dans la catégorie des gens qui codaient depuis l'âge de 6 ans, etc. Mais ça avait l'air cool, cet événement. On s'est chauffé avec plusieurs de mes co-internes, donc ça veut dire d'autres étudiants en médecine comme moi, en santé publique. Et on s'est pointé à cet événement, c'était en 2014 ou en 2015. Et donc, 3 jours de hackathon hyper classique, pour ceux qui ont déjà fait des hackathons.
Ouais, toi, tu étais venu sans idée.
Alors, si j'étais venu, on y allait à plusieurs. Et moi, du coup, en tant que professionnel de santé, je suis arrivé avec une idée sur la gestion de la douleur. Hein, donc, rien à voir avec ce que je fais à l'heure actuelle. Il y avait déjà parmi les amis avec qui je suis allé à ce moment-là, mon cofondateur avec moi, qui est donc Louis, qui lui pour le coup est arrivé avec une idée déjà autour du médicament et de la gestion des interactions médicamenteuses. Et puis il y avait une troisième idée aussi dont j'ai oublié, je crois sur la pédiatrie. On est arrivé avec des idées vraiment en mode des idées quoi. Enfin, ça n'allait pas plus loin qu'on va passer un bon week-end. On a pris des thématiques qui nous semblaient pertinentes et on y allait par curiosité. Franchement, il n'y avait vraiment pas plus de plan que ça. Et j'ai adoré cette expérience. C'était incroyable. Et en fait, je suis ressorti de ces 3 jours en me disant mais en fait, je me trompe. C'est pas les trucs en administration de la santé qui vont avoir le plus d'impact dans la santé sur les dizaines, les quelques futures décennies, c'est vraiment la tech qui va avoir le plus d'impact sur la santé. Donc, je vais faire de la tech en santé, en fait. Et en plus, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai pas pensé avant? J'adore la tech quand même. J'ai une appétence pour ça. J'avais juste pas pensé que je pouvais relier les deux dans mon dans mon cursus professionnel,
ouais, ça fait partie de la formation.
Mais notamment parce qu'on ne l'explique pas aux médecins, quoi.
Ouais.
Il faut te dire qu'on fait 11 ans d'études de médecine, minima, sans que tu aies... Moi, j'ai fini mes études de médecine il y a 3 ans et demi maintenant. Je me sens déjà vieux, mais donc c'est pas si vieux, tu vois, que j'ai fini mes études
de médecine. Oui, t'es un jeune médecin.
J'ai pas eu un seul cours de près ou de loin, ou une seule, ne serait-ce que début de formation, ou même début de phrase, sur l'informatique en santé, la tech, la e-santé. Ça n'existe pas, quoi.
Ouais, il faut faire des passerelles. Enfin, des...
Faut, ouais, ouais. Encore, je pense que ça a bien évolué depuis. Je pense que ça va dans le bon sens. On pourra en parler après. Mais voilà, c'était même pas une possibilité, quoi. D'où le fait que c'était pas une possibilité dans ma tête, parce que ça m'avait jamais été présenté comme une possibilité. Et donc c'est là où je me suis dit, je vais faire un master d'informatique en santé. Et puis surtout, derrière, c'est là où on a essayé de continuer à faire vivre un peu les projets qui étaient sortis de ce hackathon, qui étaient rien. En hackathon, tu sors des maquettes, tu sors.
Et souvent, la plupart des idées disparaissent après le.
Exactement. Après le hackathon. Et en fait, avec lui, on a continué à être très motivés sur le sujet des médicaments, et puis le sujet intéressait les gens, en fait, surtout. Et puis on a continué à faire des choses autour du médicament, mais en fait, à aucun moment en se disant que ça allait devenir une start-up. C'était toujours pas le cas, on était en études, on était motivés par ce projet. Au début, on voulait juste finaliser ce qu'on avait fait, enfin coder en vrai ce qu'on avait fait au hackathon. Et puis après, les gens nous demandaient des features en plus. Et puis, est arrivé le jour, et j'étais encore interne à ce moment-là, où je fais un résumé, hein, y a eu des...
Ouais, mais je vais te demander, parce que là, du coup, tu nous en as pas du tout parlé, mais à quel besoin vous vouliez répondre à travers avec cette solution.
Mais non, t'as raison de... Globalement, on est arrivé avec des idées, à chaque fois, on s'était dit, il y a des besoins. Louis, qui était porteur vraiment de cette idée autour des médicaments, il y avait un double constat qui existe toujours et qu'on a creusé derrière, et on s'était même pas rendu compte à l'époque à quel point ce constat était vrai. Double constat. Le premier, il est très terrain et très pratico-pratique, qui est que les professionnels de santé, donc les médecins, les pharmaciens notamment, mais tous les autres, quand ils cherchent de l'information sur des médicaments aujourd'hui, les outils qu'ils ont à leur disposition, ils sont très frustrants. C'est-à-dire que pour aider à prescrire, pour aider à dispenser des médicaments, pour aider à analyser une ordonnance, il y a des outils, hein, on ne part pas de zéro, mais soit les informations qu'ils trouvent dans leurs outils ne leur conviennent pas, soit l'ergonomie est vraiment d'un autre siècle et donc ça rend les choses illisibles, soit c'est ultra chronophage et donc c'est vraiment générateur de frustration, alors que c'est indispensable, quoi. Donc il y a ce constat vraiment très, très métier à la base de dire, ok, il y a un truc avec un besoin quotidien pour des dizaines de milliers de professionnels de santé et qui aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui fasse l'unanimité ou qui soit satisfaisant. Et l'autre chose, il est pour le coup très santé publique et épidémiologique, il est sur le fait qu'il y a des gens qui meurent de ce qu'on appelle le mauvais usage des médicaments, et pas qu'un peu. C'est-à-dire que par an, rien qu'en France, c'est entre 10 et 30 000 décès, c'est 180 000 hospitalisations évitables. Donc c'est beaucoup.
C'est ouais, on voit souvent que c'est l'équivalent de l'épidémie de Covid-19 chaque année, quoi.
Alors oui, non, on disait ça quand c'était le début de l'épidémie de Covid-19.
Maintenant c'est plus.
Maintenant c'est ouais. Malheureusement terriblement plus. Ouais. Mais c'est l'équivalent d'une première vague de Covid chaque année, ouais. Donc on s'est dit, voilà, à la fois il y a des gens qui en fait sont pas contents des outils qu'ils utilisent, en plus il y a des grosses conséquences. Et raison pour laquelle, en fait, on a continué à creuser ce sujet, et raison pour laquelle, effectivement, il y a eu des gens pour être intéressés par ce qu'on faisait. Et je pense que ce qui est hyper important à souligner, déjà à ce stade, je sais pas si ça ressort de ce que je raconte, c'est qu'en fait, à toutes les étapes de ça, là, à aucun moment on s'est dit qu'on montait une start-up, et à aucun moment on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve la bonne idée ou quoi. C'est pas du tout ça ce qui s'est passé, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait envie de faire des choses. On avait envie d'entreprendre, mais j'avais même pas mis le mot dessus, quoi. J'étais motivé par des projets. Et en fait, on a testé plusieurs choses, hein. C'est ça qui s'est passé dans l'hackathon. Et après, on a juste continué à travailler sur l'idée de base qui plaisait le plus, on va dire. Ou en tout cas, rencontrer le plus son public. Et continuer à itérer dessus jusqu'à ce que, sans qu'on s'en rende trop trop compte, ça devienne une boîte. Mmh. Et du coup, moi, les gens me demandent souvent « Ah, mais quand est-ce que tu as eu l'idée de Synapse ?»« Ah, et quand est-ce que tu t'es dit « Je monte une startup ?» ?» Je suis incapable de répondre. J'ai jamais eu l'idée de Synapse. Et je me suis jamais réveillé un matin en me disant « Allez, je monte une boîte. » Ça a été beaucoup plus progressif que ça. Et je pense que c'est un truc qui est souvent dit par les entrepreneurs, mais qui, tout le monde continue quand même à poser la question, comme s'il fallait un instant Eureka, quoi.
Ouais. Et juste pour comprendre sur la partie besoin, le public initial, c'était les médecins.
Les médecins, oui, complètement. Bah,
tu peux nous parler un peu de justement des points de douleur, des points de frustration de ces médecins, parce que tu vois, moi, quand j'essaie de m'imaginer un médecin généraliste, à quel moment le médecin généraliste il va vraiment chercher à s'informer sur les médicaments? Parce que pour moi, tu vois, ça se passe derrière l'écran et je le vois pas en tant que patient le faire. Alors que peut-être que les pharmaciens, là, c'est beaucoup plus visible parce qu'ils vont y réfléchir vraiment au quotidien. Je sais pas comment tu peux vraiment m'expliquer cette situation.
Alors déjà, on est parti sur les médecins parce que on est médecins nous-mêmes. Donc c'est quand même, je pense, un réflexe assez humain de dire, bah, on va partir du besoin que je connais, quoi. Ce qui a été une force et en même temps ce qui était probablement le chemin le plus difficile a posteriori. Alors un médecin généraliste dans la journée, il va chercher de l'information entre 4 et 5 fois par jour sur les médicaments. Un médecin généraliste, globalement, il prescrit très souvent dans sa journée, donc il va prescrire des nouveaux médicaments ou il va renouveler des traitements. Et pour ce faire, soit il va prescrire un médicament à quelqu'un qui va globalement bien, qui n'a pas trop d'autres médicaments, etc. Mais bah, c'est un médicament dont il n'a pas tellement l'habitude, donc il ne se souvient plus de la posologie, ou il ne se souvient plus vraiment s'il peut le donner à ce patient, ou par exemple c'est une femme enceinte, il ne sait plus s'il peut le donner à une femme enceinte parce qu'il y a des contre-indications sur les femmes enceintes, etc. Et donc il va chercher une information précise sur ce médicament, à savoir est-ce qu'il est contre-indiqué chez un diabétique, à quelle posologie je peux le donner, etc. Donc ça c'est des questions simples. Et à l'heure actuelle, il va soit les taper dans Google.
Carrément.
Ouais, ben carrément. Il va pas aller sur n'importe quel site derrière pour trouver la réponse, mais il va probablement les taper dans Google. Soit il va, et donc derrière, il faut effectivement qu'il aille scroller et cliquer sur un lien. Il faut espérer qu'il clique sur le bon. Soit il va aller dans un dictionnaire médicamenteux comme le Vidal. Il va rentrer par le médicament, il va taper le nom du médicament, et après il va dérouler la très longue notice à destination des professionnels de santé et essayer de trouver son information dedans. Voilà comment il va faire. Ça c'est déjà chronophage, c'est pas le pire, ça arrive plusieurs fois par jour, mais ça lui prend déjà un peu de temps. Le plus handicapant qu'il puisse y avoir, c'est notamment s'il le tape dans Google, voire même s'il utilise un vieux Vidal, c'est que l'information soit pas à jour. Parce qu'en fait ces informations, elles changent tout le temps. Et donc ça, c'est quand même fondamental d'essayer de faire en sorte que le médecin tombe sur une information qui soit fiable, déjà parce que la source est fiable, mais aussi qu'elle soit actualisée. Mais ce qui prend encore plus de temps et qui du coup est très difficile à faire pour un médecin dans une journée telle qu'ils en ont, parce que je pense que j'ai pas besoin d'expliquer à quel point c'est chaud pour les médecins, en termes de temps, quoi, en termes de charge de travail. C'est qu'il y a toute une énorme partie de leur patientèle, de leurs patients, qui sont des patients qui ont plusieurs maladies ou qui sont très âgés, etc., et qui ont 7, 8, 10, 15 médicaments. Ça, c'est vraiment une grande partie de la population. Hein. C'est pas,
oui, et puis ça va continuer à augmenter.
Ça augmente avec le vieillissement de la population. Donc ça, c'est tous les jours aussi pour les médecins. Et ça, en fait, dès qu'on est sur des ordonnances qu'on appelle plus complexes, hein, il y a plus de médicaments, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Il faut regarder si les médicaments ils interagissent entre eux. Il faut adapter les doses en fonction des interactions qu'il peut y avoir. Il faut aussi adapter les doses en fonction de si ce patient il a autant de médicaments, a priori, c'est qu'il a des maladies. Donc, il peut avoir du diabète, il peut avoir une insuffisance rénale, il peut avoir une insuffisance hépatique. Et tout ça, ça joue sur aussi les posologies de médicaments et aussi les médicaments qui sont à choisir. Et donc, tu rentres dans un niveau de complexité qui est tout de suite beaucoup plus important. Raison pour laquelle il y a ces fameux, normalement, outils d'aide à la prescription et pour les pharmaciens d'aide à la délivrance, qui sont censés te mettre des alertes automatiques, etc. Mmh. Et donc, c'est les fameux outils où je te disais qu'en fait, les médecins ne regardent même plus ou très peu parce qu'en fait, dans les faits, ils se retrouvent avec une liste de 70 alertes, dont il y en a 69 qui ne sont pas pertinentes, et ils ne lisent plus.
Et donc vous, c'était quoi votre idée de base pour vraiment comprendre à partir de quoi vous avez commencé et comprendre comment ce produit, ouais, cette solution a évolué dans le temps? Ça, c'est ce qui
m'intéresse. Nous, on a commencé par la thématique des interactions médicamenteuses. Donc, c'est ce, okay, qui se passe quand deux médicaments interagissent l'un avec l'autre, avec un effet qui, du coup, n'est pas bon pour le patient. Et en fait, le constat, c'est un très bon use case parce que on a continué avec cette méthodologie, c'est Synapse. Le fait est que l'information sur les interactions médicamenteuses, elle existe. Elle existe d'une super qualité. Il y a un organisme en France qui est l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui édite ce qu'on appelle un thésaurus. Donc, c'est un très très gros PDF qui fait 250 pages. Et dedans, il y a toutes les infos. Mais c'est un PDF de 250 pages. et qui est même pas très facile à lire ou à chercher parce que il faut rentrer par plusieurs clés de lecture, etc. Donc c'est l'enfer. Et on s'est dit, nous, on va le crawler, on va l'aspirer avec des algorithmes pour le comprendre automatiquement et puis le permettre à un système de le requêter. Donc c'est ce qu'on a fait à la base. Et après aussi, on s'est dit, on va essayer de rendre aussi l'information à la fin, les résultats, les plus ergonomiques possibles. Et donc rien que ça, en fait, les professionnels de santé, ils étaient hyper contents d'avoir un outil qui, à la fois, est la bonne source d'information, qui soit bien à jour, et avec des résultats qui soient ergonomiquement présentés de manière plus contextuelle et plus facile à appréhender.
Okay. Donc la première idée de base, c'était tout simplement, vous avez ce PDF, on va le digitaliser, ouais, on va, ouais, le rendre plus visuel et on va le crawler,
l'aspirer et le rendre requêtable d'une façon simple parce que à la base il est très peu lisible.
Et vous l'avez confronté à qui ?
Cette solution, on l'a mis tout de suite dans les mains de médecins, dans les centres régionaux de pharmacovigilance, dans les différents endroits. On a balancé le lien du petit truc qu'on avait à plein de gens qu'on connaissait.
Ok, et eux, comment ils se disaient, ok, c'est des médecins eux-mêmes, c'est sécurisé, c'est fiable.
Ouais, les médecins, c'est des gens critiques dans la vie et c'est bien.
Ouais.
au début, t'as tout type de retour, ouais. Mais globalement, on n'a jamais eu de problème de légitimité, c'est sûr. C'est-à-dire quand c'est des médecins qui entreprennent. En plus, on est toujours resté très très proche des différents services hospitaliers, etc. Donc, on n'était pas, c'est sûr qu'on n'était pas deux types qui arrivent, qui connaissent rien à la santé et qui pensent qu'ils vont réinventer tout ça. On avait une légitimité médicale. Après, les médecins, ça aime bien critiquer. Donc, ça n'a pas été ouais, c'est super, vas-y, on le met dans tout l'hôpital. C'est pas comme ça que ça s'est passé.
Ok. Et pour la partie tech, vous êtes débrouillé comment ?
Alors la partie tech, un peu comme on a pu au début, on a été rejoint par un troisième cofondateur qui pour le coup était tech. Et puis à l'époque, on avait aussi des potes qui bossaient un peu sur le projet, etc. Donc on a pu en faire un POC qui tenait avec un peu des ficelles, quoi. Hein. Donc ça, c'était même avant que ce soit une boîte. Hein. C'était pas de statut déposé. Et puis après, en fait, le tournant, c'est qu'en fait, même ce truc-là, il y a des gens qui ont voulu le payer à un moment donné, qui nous ont dit, mais moi, j'ai un projet autour de ça, et puis je voudrais que vous fassiez des trucs un peu autour, et faites-moi un devis. Et on s'est dit, waouh, en fait, on ne sait même pas comment on fait un devis. Et c'est là où on s'est dit, ok, bon, on va créer une boîte pour pouvoir juste facturer, quoi.
Ok, donc deux médecins, enfin deux plus un profil plus tech,
ouais,
se lancent et là vous vous dites peut-être qu'on tient un truc.
On se dit même pas qu'on tient un truc à ce moment-là, je pense. Okay. Franchement,
c'était
on est
vraiment juste, on crée une boîte parce qu'il y a un besoin de facturer.
Oui, si on commence à se dire c'est cool, on va pouvoir faire plus de choses et pousser plus le projet. Mm-hmm. Mais on n'est pas. Le truc, c'est qu'on n'avait pas de culture entrepreneuriale ni l'un ni l'autre. Tu vois, ouais, je suis tombé. Traînait pas du tout avec d'autres entrepreneurs, on traînait pas dans le monde des startups, etc. Donc on était à mille lieues de savoir ce qu'était une levée de fonds, des trucs comme ça, etc. Donc beaucoup plus basique de on va faire avancer le projet et on va pouvoir faire des trucs plus cool.
Ok. Et pour comprendre du coup donc la partie évolution du produit, comment justement vous êtes passé de ce stade de ok on a un truc qu'on peut facturer et qui a l'air de plaire à ok maintenant on se lance et on monte une boîte vraiment on veut créer un produit pour voilà comprendre ce shift.
Bah, je pense que là encore, ça a été progressif. Globalement, quand on a rentré du coup un premier contrat, on a été assez bon pour aller chercher des financements derrière, donc au début des financements publics, hein, une bourse French Tech BPI, une aide régionale, et on a recruté quelqu'un. Et là, ça commence à t'ancrer dans le fait que t'as une boîte, quoi. Du début, je pense qu'on avait quand même une culture produit, c'est-à-dire que notre but, on a fait un choix assez fondateur, parce que derrière le premier contrat dont je parlais, on nous a proposé de refaire de la prestation de service. Et je pense que pour le coup, effectivement, ça me revient en parlant, tu vois. Il y a eu un choix à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on le fait ou pas? C'était encore pas mal d'argent. Et on a refusé. On a dit, non, non, on veut pas faire de prestation de service, on veut pas réaliser des prestations techniques pour d'autres, on veut faire notre produit. Et tant pis si du coup on va nulle part ou si on rentre jamais d'argent, mais c'est ça qui nous amuse. Donc on avait un ADN produit.
C'est intéressant parce que tu vois souvent tu peux te dire ouais ça va nous permettre de comprendre de mieux comprendre le marché d'avoir un
Ouais,
petit
non,
peu
j'ai
de
toujours été
d'apport
méfiant
financier
par
au
rapport à
début.
ça. Moi, j'estime que c'est de la distraction. Dans de rares cas, tu vois, enfin, je dis ça en même temps, on a fait one shot au début. Mais je pense que ça peut être très addictif et que c'est de la distraction. Et en fait, c'est tellement facile aujourd'hui. Enfin, c'est tellement facile. Tu vois, rentrer 50, 100, 150K sur de la prestation informatique, ça paye les factures, t'as l'impression que ça te permet d'avancer, de continuer, etc. Mais en même temps, du coup, tu bosses jamais sur ton produit. Et en plus, t'as jamais, du coup, l'urgence de te dire, non, mais il faut vraiment que mon produit soit canon ou que j'avance avec et que ce soit ça qui paye les factures. Donc, je crois que c'est surtout ça le danger, quand tu fais d'autres choses à côté, que ce soit du consulting, de la prestation, etc. C'est que tu te génères pas l'urgence,
Ouais, tu restes dans un confort. Je
exactement.
comprends.
Tu te génères
Mais
pas l'urgence vitale d'avancer sur ton
ce qui est
produit.
marrant, c'est que tu dis que tu n'avais pas du tout de culture entrepreneuriale, mais ça, c'est quand même une caractéristique qu'on peut retrouver chez pas mal de fondateurs de boîtes plutôt produits, plutôt tech, de penser comme ça. Donc, ça t'est venu d'où tu t'es entouré à un moment et.
Alors, je pense que j'ai quand même eu un shift, et donc c'est un retour en arrière un peu. Enfin, tout ça était à peu près la même période. Non, c'était à cette période-là, exactement à cette période-là en fait. J'ai quand même commencé à me renseigner sur l'entrepreneuriat. Moi, j'ai une seule source d'information recommandée, c'est les essais de Paul Graham. Voilà. Vous allez sur le site de Paul Graham, vous tapez Paul Graham dans Google et vous lisez juste les essais de Paul Graham et rien d'autre. Parce qu'il y a tellement de bêtises qui sont écrites sur. Mais lui, donc c'est le mec qui a fondé Y Combinator, pour ceux qui connaissent. Et je pense que tout est très bien théorisé. Et justement, il y a des pavés entiers sur. En fait, les essais même sont assez courts, mais sur justement ce que je viens de dire, à savoir que les distractions, etc. Et puis l'autre chose qui, quand même, a fait un shift, c'est que j'avais quand même le rêve d'essayer d'aller à Silicon Valley et à Stanford. Et à base d'une bonne centaine de cold emails, j'ai fini par trouver une équipe de recherche qui était motivée pour que je vienne, quoi. Je m'étais trouvé un peu mes propres financements. Enfin bref, je passe les détails, mais je. Et du coup, j'ai pu partir un peu moins d'un an dans une équipe de recherche à Stanford faire de la bioinformatique, en suivant du coup mon fameux master d'informatique que j'ai décidé de faire post-hackathon. Et en parallèle, je me suis dit, bon, bah, qui ne tente rien à rien, j'ai candidaté aussi à la Business School de Stanford pour faire un an de MBA. Et j'étais pris à la Business School de Stanford. Et donc j'ai pu faire un an à Stanford, donc en Californie, où c'était intense, quoi, parce que du coup j'ai développé un peu Synapse, enfin les prémices de Synapse. Je faisais, effectivement, j'étais censé quand même être visiting student dans cette équipe de recherche. Donc produire du travail de recherche en bioinformatique et suivre les cours de la
Donc,
Business School.
t'avais trois activités en somme.
Ouais, et puis en plus je faisais encore d'autres trucs, je recommande pas ça pour la qualité de vie, franchement. Mais ça a été une période très riche, et je pense qu'effectivement là quand même il y a eu l'acculturation entre la vie. Là j'ai franchi un cap d'acculturation important à ce moment-là,
Sur la culture business. Ok.
sur la culture business, sur la culture entrepreneuriale. C'est là où j'ai appris à, comment tu fais des docs Excel pour aller lever des fonds, comment tu... enfin, j'ai appris les bases, quoi.
Et pour avancer, pour faire un petit fast forward, comment, voilà, vous en êtes arrivé aujourd'hui à ce que vous avez avec Synapse et comprendre comment vous êtes passé donc de ce petit produit à la solution actuelle. Donc, c'est-à-dire que vous avez focus sur la création d'un produit, vous avez apporté voilà un outil qui est nourri, alimenté par des bases de données santé sur les médicaments. Est-ce que tu peux m'écrire, voilà, me retracer grandes étapes en voilà en quelques minutes sur l'évolution du produit avant qu'on parle un petit peu plus de business model, de stratégie, tout ça.
Et ben là aussi, je vais donner une recette hyper simple que donne Paul Graham, mais ça paraît. Mais on a, j'ai essayé de faire en sorte qu'on fasse que ça. On a, moi, j'ai appliqué un truc simple. Je voulais qu'on passe un tiers de notre temps à parler à nos utilisateurs. Donc, ça veut, utilisateur, ça veut dire les gens qui peuvent utiliser le produit, mais aussi le marché, quoi. Donc, le potentiel client. Donc, j'ai été tout le temps en train de montrer le produit et de dire ce qu'on voulait faire à des gens pour avoir du feedback. Et on a itéré comme des malades. C'est-à-dire qu'on sortait 2 versions de Synapse par semaine. Et ça, depuis 3 ans et demi.
Okay. Jamais... Vous le mettiez directement, comme au début, après le hackathon, dans les mains des médecins et dans les mains d'autres personnes.
On parle aux gens, on itère, on essaye de faire des petites itérations et d'avoir du feedback et de construire ce dont les gens ont besoin et de se focaliser sur ce dont les gens ont besoin. Et du coup, le produit s'est étoffé. Les gens avaient besoin de plus de choses sur l'analyse d'ordonnance. On fait plus de choses sur l'analyse d'ordonnance. On a fait un assistant sur les médicaments. Et on a étoffé fortement le produit. On a récemment rajouté plein de choses pour les pharmaciens hospitaliers avec un super product market fit là-dessus. Et voilà, je ne rentre pas dans le détail de toutes les features, mais elles n'ont pas été faites en s'asseyant, nous, dans notre coin, dans notre bureau et en pensant très fort. Ça arrive aussi, mais elles ont vraiment été faites en fonction du marché. Et donc, tu me demandais si on avait pivoté. On n'a jamais pivoté sur la vision. La vision de Synapse et la mission, c'est vraiment de permettre à tous l'accès à une information fiable et utile sur les médicaments. Et donc, ça veut dire qu'on a toujours su qu'on voulait faire des produits pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les patients, permettre à tous d'avoir l'information sur les médicaments. Mais la façon d'y arriver et les features exactes et dans quel ordre et comment tu attaques ton marché, on l'a construit en parlant au marché, en parlant aux utilisateurs et en étant le plus souple possible.
Ok. Et justement, pour comprendre un peu ce marché... Et qui sont voilà les payeurs, les utilisateurs et les bénéficiaires. Les utilisateurs sont clairement donc les médecins, les pharmaciens
et les patients maintenant.
Voilà donc. Est-ce que voilà c'est ma question. Tu dis et tu as toujours maintenu que voilà ce n'étaient pas les payeurs. Est-ce que tu peux m'expliquer si voilà les payeurs ont été identifiés dès le début?
Non. Je pense qu'on a ce qu'on a fait de bien, c'est qu'on s'est lancé très vite, très tôt, et avec un produit dont on avait honte. Donc, je te disais, je vais répondre très précisément à ta question sur le business model. On a juste pour faire la transition, on montrait beaucoup le produit, mais beaucoup en bêta, etc. On a sorti le produit entre guillemets aux yeux du grand public. Grand public de manière officielle, et tout le monde pouvait télécharger l'app et tout le monde pouvait se créer un compte en mars 2019. Donc, c'est pas si vieux que ça, hein. Au moment de notre première levée de fonds. Et en fait, à ce moment-là, on tâtonnait encore vachement sur le business model, hein. On n'avait pas de source de revenus encore énorme. Et on a dit, bon, à force de. On cogitait beaucoup. On a dit, bon, on va tenter un business model le plus direct possible. On va faire payer les médecins. N'importe quel médecin, que ce soit hospitalier ou autre. On va faire payer les médecins à un prix par mois, un abonnement. Donc on est toujours parti sur un modèle SaaS et donc ça on n'a jamais changé, hein, donc un modèle sur abonnement. Et les médecins, c'est compliqué pour les faire payer. On le savait, hein, mais c'était bien de s'y confronter. Ou alors tu fais comme Doctolib et tu déploies une force de frappe très importante. Mais les médecins sont durs à marketer. Ils sont assaillis de trucs pour Et puis en plus, ils ont, comme je le disais, il y a quand même déjà des solutions qui existent pour avoir de l'information sur le médicament. Donc tu vois, pour leur faire passer le cap de s'abonner à quelque chose, etc., c'est compliqué. Donc on a eu un succès d'estime, mais rien de fou. Et puis, bah, comme souvent en santé, en fait, les payeurs sont dans la santé, les payeurs sont pas les utilisateurs en France. Et donc aujourd'hui, finalement, bah, nos payeurs sont des clients B2B uniquement, enfin très 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 majoritairement, on va dire, à savoir les hôpitaux, voilà, de manière classique, mais beaucoup plus sur notre produit pour la pharmacie hospitalière. C'est les entreprises de télémédecine. Parce que un bon move qu'on a fait aussi, c'est que très vite on a rendu Synapse vraiment sur un modèle plateforme, c'est-à-dire que à la fois tu peux l'utiliser en standalone, mais tu peux aussi intégrer chacun des composants de Synapse, chacune des briques d'analyse, etc., dans des third parties, quoi. Et donc aujourd'hui, par exemple, on est les leaders de l'aide à la prescription en télémédecine, qui est un secteur qui est porteur, ce qui veut dire que sur les grosses plateformes de télémédecine, type Elocare, Médecin Direct, Teladoc, etc. Les prescriptions sont vérifiées en temps réel et sont faites à partir de Synapse, c'est de la base de données Synapse et des algos Synapse.
Du côté des médecins, du coup, toujours.
Du côté des médecins, donc c'est transparent pour le patient, pour l'instant. Mm-hmm. Mais le médecin prescrit avec Synapse. Ouais. Et en voyant le logo Synapse, mais il reste dans sa plateforme parce que c'est vraiment la boîte de télémédecine qui a pris nos composants, qui les a intégrés. Ça leur demande entre 24 et 48 heures de boulot. Et,
pour l'intégration.
D'intégration, c'est très rapide, c'est des composants, c'est des widgets, donc c'est comme intégrer Google Maps dans un site web.
Fonctionne comment, c'est style API
Alors, API, non, on a une API d'autocomplétion des médicaments, ouais. Et le reste, c'est des widgets, ça veut dire que c'est une petite librairie JavaScript qui s'exécute côté client. Okay. Donc ça veut dire qu'en gros, concrètement dans le code, tu mets une ligne de code et ça appelle carrément le composant, donc t'as pas à recoder même l'interface, donc t'as vraiment la brique clé en main. Check d'interaction médicamenteuse, etc. T'as des paramètres que tu peux, si tu veux, gérer un peu l'apparence, etc. Mais ce qui te permet en fait de construire une solution de prescription, une solution d'analyse d'ordonnance, comme tu construirais un Lego, quoi. Tu prends les trois briques qui t'intéressent, tu les mets dans ta page, et si t'es efficace, en 3 heures, c'est plié, quoi.
Ok, ça marche.
Donc ça, nos clients, c'est les entreprises de télémédecine, en fonction du volume
d'utilisateurs. Ok. Et donc elle paye au volume ou elle paye à l'année en fonction du volume, ça marche comment?
Nous on est sur des trucs mensuels, quoi, avec okay. Mais elle paye en fonction du volume de médecins modulo ordonnance. Voilà, donc c'est en fonction du volume. C'est pareil dans les hôpitaux, hein, c'est en fonction du volume d'ordonnances et d'actes qui sont générés. Et puis on a également des sources de revenus via notre application pour les patients, qui est financée par les mutuelles, notamment la Matmut.
D'accord. Ok, ça marche. Et donc, dans ce cas-là, c'est téléchargeable directement sur les App Store.
Exactement. Et là, en fait, on a une version gratuite et une version premium de l'application. Et la version premium est financée par les mutuelles.
D'accord. Ok, ça marche. Et donc, aujourd'hui, la plus grosse source de revenus, c'est via les plateformes de télémédecine et les hôpitaux.
Et bien, en fait, je pense que notre force, c'est aujourd'hui, c'est d'être assez présent sur l'ensemble de ces marchés-là, en fait. Donc, suivant les périodes, je pourrais pas te dire finalement quel segment marche le mieux pour nous. Et en plus, on en a d'autres qui s'ouvrent, notamment sur le secteur de la pharmacovigilance. Là, je pense qu'on ne veut pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps. Mais en fait, ce qu'on avait sous-estimé, et que je sous-estime peut-être encore même à l'heure actuelle, c'est la taille de notre marché, en fait, qui est gigantesque. L'information sur le médicament, il y en a besoin partout, dans la quasi-totalité, en fait, des secteurs de la santé. Et on a su construire finalement une plateforme qui est extrêmement modulable, avec une techno qui est très, très, très scalable, et qui permet d'insérer nos différentes briques technologiques dans plein d'endroits, en fait, du système de santé. Et du coup, d'être hyper flexible et de pouvoir attaquer énormément de segments de marché. En fait, on a une verticale qui est l'information sur le médicament, mais beaucoup de payeurs potentiels, beaucoup de segments potentiels. Et c'est ça aujourd'hui qui nous permet vraiment d'avoir accéléré fort.
Ok. Et en termes d'adaptation ou de développement pour aller à l'étranger, est-ce que ces bases d'informations sur les médicaments sont les mêmes dans les autres pays? Est-ce qu'elles ont besoin d'être traduites?
Non, alors tout le boulot doit être fait quasiment. Et donc ça, on l'a fait. Et on a passé une année bien intense. Donc en gros, c'est une très bonne question. La première difficulté, c'est que les médicaments sont différents aux États-Unis, par exemple, carrément différents. En Europe, c'est globalement homogénéisé, mais les noms des médicaments sont différents et ce qu'on appelle les guidelines, donc c'est-à-dire la façon de les utiliser, peuvent changer un petit peu. Et donc, il faut faire des adaptations. Donc, on l'a pas fait tout de suite. Hein, on a passé la première année de notre vie, ou année et demie, à rester assez franco-français. On a fait une première version US. Et pré-Covid, on était focalisé sur les US et le Japon et pas du tout sur l'Europe, parce que plein d'adaptations nécessaires, etc. Et on est en train de se déployer aux US, notamment avec les fonds de notre deuxième levée de fonds, parce qu'on a levé, on a été assez successful là-dessus, on a levé 10 millions en 14 mois, ouais.
Avec la MACSF, c'est ça.
Avec MACSF, Exchange et BNP,
ouais.
Et Kima. Et puis le Covid est arrivé, on ne pouvait plus prendre un seul avion, tous les événements à US étaient annulés, et donc on a redispatché une partie du budget et des efforts sur l'Europe, parce que c'était plus facile à ce moment-là. Et donc, on a ouvert de front l'Allemagne, UK, Espagne, Italie.
En passant via quoi, du coup, les plateformes de télémédecine,
ouais.
Ou les hôpitaux. Ouais, okay.
Les plateformes de télémédecine, on commence à être sur les hôpitaux également. Et avec un super succès pour l'instant, je suis vraiment ravi de comment ça se passe. Et là, on accélère également fortement en ce moment sur les US. Et dès qu'on pourra reprendre un avion pour le Japon, mon cofondateur Louis va également partir quelques mois au Japon, qui est un super pays pour nous.
Ok. Très bien.
Donc en ce moment, le challenge, c'est vraiment, vraiment l'internationalisation.
D'accord. Et donc ça, est-ce que votre dernière levée de fonds concernait principalement l'internationalisation? Ou est-ce que dans les prochaines étapes, il y a également une levée qui devrait permettre de se déployer aux États-Unis?
Non, alors avec 10 millions, tu ne déploies pas autant de pays. Ça, c'est sûr que non. Donc l'argent de la dernière levée devait servir à accélérer en France et faire les premières preuves de marché dans les différents pays.
D'accord.
Donc une approche rationnelle, chose que je pense qu'on a démontré à l'heure actuelle. Et effectivement, je pense qu'on va remettre un coup d'accélérateur très bientôt pour maintenant accélérer sur les différents marchés sur lesquels on a fait les preuves de concept.
Et concrètement, ça se passe comment pour aller chercher ces marchés en Europe? Donc voilà, en Europe, on sait que c'est plus, potentiellement plus dur qu'aux États-Unis parce qu'on a un marché qui est très fragmenté, mais à la fois, ça permet de maximiser les différentes opportunités. Est-ce que vous, depuis la France, depuis Bordeaux, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous allez les démarcher donc via du cold email, ouais. Ou est-ce que vous avez une stratégie?
De toute façon, on a dû faire avec le Covid. Hein, donc, quand tu ne peux même pas sortir dans un rayon de 10 km, de toute façon, il faut inventer des choses. En même temps, ça nous a permis de contacter la Terre entière, effectivement, depuis Bordeaux. Je pense que c'était le cas pour pas mal de gens. Donc oui, on a un certain nombre de stratégies. Je pense qu'on déploie l'ensemble des différentes stratégies qui sont connues. On fait du cold email, hein, directement de l'outbound. On fait beaucoup, beaucoup de content marketing qui nous génère pas mal de leads entrants. On fait des stratégies de partenariat. Donc on a un certain nombre de choses. Notre avantage, encore une fois, hein, c'est qu'on est sur un secteur très, très bien défini. Nous, on ne fait que du médicament, que du bon usage du médicament. Et donc, à chaque fois qu'on arrive dans un pays, la règle numéro un, c'est d'identifier les différents stakeholders, les influenceurs dans ce secteur-là, etc., et de se rapprocher de cette personne-là, de monter des consortiums, de faire un certain nombre de choses. Et quand ton marché est bien défini comme ça, ça te facilite le go-to-market dans les différents pays parce que tu sais à qui t'adresser quand même.
Ouais, tu vas pas chercher n'importe où. Ok.
Exactement.
Très bien. Écoute, on arrive à la fin de notre discussion, Clément. Moi, généralement, je pose quelques questions à mes invités. La première, c'est selon toi, depuis que tu t'es lancé, quelle a été la plus belle réussite ou est-ce qu'il y a eu un moment marquant dans ton aventure?
Waouh. Je dirais pas qu'il y a eu un moment marquant. Je pense que la plus belle réussite, je vais faire mon bisounours, mais c'est l'équipe qu'on a construite. On est une petite cinquantaine aujourd'hui. Et voilà, moi je vois effectivement, je parlais au début de ce podcast de quand on a commencé sur cette thématique qui me tient tellement à cœur en tant que médecin, à deux ou trois dans un garage et voir aujourd'hui 50 personnes passionnées par le sujet et qui sont tous super bossés dessus. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir.
Et si tu devais donner un conseil au Clément qui, pourquoi pas aller s'apprête à partir aux États-Unis ou voilà, se lance dans l'entrepreneuriat à temps plein, qu'est-ce que tu voudrais lui conseiller?
Je dirais d'écouter moins les conseils, notamment de tous les conseils des gens qui n'ont pas entrepris. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses autour de l'entrepreneuriat. C'est bien, je pense qu'il faut écouter les conseils, hein. Je dis pas de pas écouter les conseils, attention, il faut écouter les conseils, il faut se remettre en question, il faut, voilà. Mais je pense qu'il faut aussi savoir se faire confiance, écouter son instinct et écouter surtout les bonnes personnes, pas trop lire de choses. Et puis, au bout d'un moment, arrêter de réfléchir et juste faire des choses. Qu'importe si ça commence tout petit, qu'importe si ça ressemble à rien au début, mais juste faire des choses, c'est déjà mieux que de rien faire.
Super. Merci à toi Clément et je te souhaite beaucoup de réussite avec Synapse.
C'est gentil, merci à toi.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.